Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard.
Aujourd'hui, Lettre d'Auschwitz de Chaim Herman. En février 1945, peu après la libération d'Auschwitz, on retrouve une bouteille en verre enterrée à proximité des fours crématoires. Celle-ci contient une lettre signée Herman, écrite en français et datée du 6 novembre 1944. L'auteur de la lettre, juif polonais, s'adresse à son épouse et à leur fille Simone. Il raconte avoir été arrêté à Paris début mars 1943 et dit faire partie des Sonderkommando, ces brigades de déportés, presque tous juifs, désignées par les nazis pour exécuter le pire travail, faire se déshabiller des cohortes d'êtres humains, les faire entrer dans des chambres à gaz et ensuite sortir les cadavres pour les mettre dans des fours crématoires. Les Sonderkommando étaient les témoins les plus immédiats du génocide perpétré par les nazis contre les juifs. Et ses témoins directs savaient qu'ils ne devaient pas survivre, précisément pour ne jamais pouvoir témoigner. Auschwitz-Birkenau, par son gigantisme, par sa complexité, est un lieu spécifique de l'histoire de la Shoah et du système nazi. Construit en 1940 sous l'ordre d'Heinrich Himmler, ce camp réceptionne force au travail et assassine des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants selon un procédé systématisé jusqu'à l'arrivée des troupes de l'armée rouge le 27 janvier 1945. Au total, ce sont plus d'un million de personnes, majoritairement juives, mais aussi tziganes et opposants politiques, qui ont péri dans les chambres à gaz, dans les lieux de travail ou encore dans les marches de la mort, lors desquelles les prisonniers étaient renvoyés vers d'autres camps. Personne ne sort d'ici, tout est fini, écrit Herman le 6 novembre 1944. L'auteur présumé de la lettre a été identifié dans les années 1960 à partir des informations qu'elle contenait, notamment la date du convoi de Drancy à Auschwitz. On a retrouvé dans la liste de ce convoi un juif polonais arrêté à Paris à la date indiquée, qui a passé la sélection à son arrivée à Auschwitz et qui portait dans son nom quelque chose évoquant Herman, un homme nommé Chaim Herman. Cette lettre désigne alors un document bien connu des spécialistes des camps nazis, désigné sous le nom de lettre de Chaim Herman. L'original de la lettre a été transmis dès 1945 au ministère des anciens combattants et des victimes de guerre, pour tenter de trouver à Paris les deux femmes auxquelles cette lettre était adressée. En janvier 1948, le ministère donne la lettre originale à l'amicale d'Auschwitz, qui publie dans son bulletin une annonce pour retrouver la famille de son auteur. Une femme et sa fille nommée Simone se présentent. Il ne fait pas de doute que ce sont elles, les deux femmes auxquelles s'adresse Herman. On leur remet la lettre, mais elles ne sont pas Madame Herman et sa fille. Herman était en effet le prénom d'usage que leur mari et père s'étaient donné depuis son arrivée en France. Son nom d'origine était Herz Strafogel. De fait, un juif polonais nommé Herz Strafogel avait été arrêté à Paris le même jour que Chaim Herman. Leur adresse était proche et ils s'étaient retrouvés dans la même chambrée à Drancy et dans le même convoi pour Auschwitz. L'auteur de la fameuse lettre de Chaim Herman était en fait Herz Herman Strafogel. Il y avait eu une erreur d'attribution. Mais personne ne prévient les historiens ni le musée d'État d'Auschwitz de cette erreur d'attribution. Et les deux femmes ne savent pas que cette lettre qui leur a été remise est une pièce historique importante. Elles la rangent chez elles. Simone, la fille d'Herz Herman Strafogel, épouse plus tard un homme dénommé Mundlach. Ils ont deux enfants, Laurent et Béatrice, qui connaissent l'existence de cette archive familiale sans savoir non plus quelle est la lettre de Chaim Herman, connue des historiens. En 2002, Simone envoie un dossier au mémorial de la Shoah, pour que son père, Herz Strafogel, figure sur le mur des noms. Son dossier comporte notamment une photocopie de l'original de la lettre de son père. Mais le lien n'est pas toujours fait avec la lettre de Chaim Herman. C'est seulement en 2018 que la responsable des archives du mémorial de la Shoah, Karen Taïeb, tombe sur le dossier de Herst Raffogel au détour d'une autre recherche dans les archives du mémorial. Elle s'aperçoit que se trouve dans ce dossier la fameuse lettre de Chaim Herman qu'elle connaissait déjà, et elle comprend alors que Herst Raffogel est le véritable auteur de cette lettre, mal attribuée depuis 75 ans donc. Karim Taïeb contacte la famille Raffogel et rencontre Laurent Mundlach, le fils de Simone, alors décédé. Celui-ci découvre l'histoire de son grand-père et donne avec sa sœur l'original de la lettre aux archives du mémorial de la Shoah. Herst Hermann Raffogel est né le 16 décembre 1895 à Varsovie, dans une famille juive. Il fait ses études en Pologne et y commence sa vie d'adulte. Il épouse Tiona Winnicka en 1920. Le couple donne naissance à une fille, Sima, en 1927. En 1930, les Raffogel émigrent de manière définitive en France, s'installant dans le 11e arrondissement de Paris. Herst Raffogel dispose d'un atelier où il exerce comme tailleur. Une fois naturalisé, il se fait appeler Hermann, une version francisée de Herz. Arrêté seul au début de l'année 1943, Herst Raffogel est interné à Drancy, puis déporté à Auschwitz-Birkenau en mars 1943 par le convoi 49. Comme une centaine d'hommes de son convoi, il est directement affecté au Sonderkommando. C'est sous l'appellation de Sonderkommando, ou commando spécial, que les nazis désignaient les hommes juifs sélectionnés pour effectuer un travail abominable et servile au cœur du processus d'extermination. Ceux-ci étaient en effet contraints d'accompagner les déportés envoyés aux chambres à gaz. Une fois le gazage terminé, les équipes du Sonderkommando devaient extraire les corps entassés et nettoyer les espaces de mise à mort. Charge à eux également de dépouiller les cadavres de leurs cheveux et dents en or avant de les acheminer vers les fours crématoires, les y brûler, puis disperser les cendres. Dans sa 48e année, au moment de son arrivée au camp, Herst Raffogel fait partie des déportés les plus âgés, versés dans ce groupe à part, composé majoritairement d'hommes jeunes. Durant toute sa vie en déportation, il est affecté au crématorium 3, le K3, dans le centre de mise à mort du complexe d'Auschwitz. Les Sonderkommando sont soumis à un travail quotidien harassant, 12 heures durant, avec une équipe de nuit et une équipe de jour. Parce qu'ils sont indispensables au processus d'extermination, les Sonderkommando reçoivent une ration alimentaire moins famélique que celle des déportés ordinaires et sont globalement mieux traités au quotidien. Ils n'en sont pas moins considérés comme des schtucks, des pièces, dans le jargon des SS. Leur condition de juif et la connaissance qu'ils ont du fonctionnement de la solution finale les vouent à l'extermination. Régulièrement, des sélections ont lieu parmi les unités asservies dans les crématoires. Une partie des détenus est alors exécutée et d'autres déportés prennent leur place en fonction des besoins en main-d'œuvre. Lorsqu'il rédige sa lettre, Herst Hermann Raffogel évoque son exécution imminente. Après la mise à mort de plus de 350 000 juifs de Hongrie entre le printemps et l'été 1944, qui marque le point culminant du fonctionnement du centre d'extermination et la montée en effectif maximal du Sonderkommando, alors composé de 900 hommes, le rythme du génocide a considérablement ralenti. Birkenau, le 6 novembre 1944. à mes très chères femmes et filles. Au début de juillet cette année, j'ai eu la grande joie de recevoir votre lettre, ce qui a été comme un baume pour mes tristes journées ici. Je la relis incessamment et je ne m'en séparerai pas jusqu'à mon dernier souffle. Je n'avais plus l'occasion de vous répondre, et si je vous écris aujourd'hui au grand risque et péril, c'est pour vous annoncer que c'est ma dernière lettre, que nos jours sont limités, et si un jour vous recevez cette missive, vous devez me compter parmi les millions de nos frères et sœurs disparus de ce monde. À cette occasion, je dois vous assurer que je m'en vais calmement, et peut-être héroïquement, ça dépendra des circonstances, avec le seul regret que je ne pourrai vous revoir pour un seul instant. Néanmoins, je désire vous exprimer là quelques directives pour vous. Je sais que je n'ai pas laissé grand-chose matériellement pour assurer votre existence. Mais après cette guerre que la vie comptera, avec une raisonnable volonté et les 10 doigts, chacun pourra vivre largement. Tâchez de vous associer avec un tricoteur pour travailler exclusivement à son compte. J'espère que rien n'est perdu de ce que vous avez confié à vos amis. En cas de quelques difficultés, adressez-vous au président de notre société de secours mutuel qui se mettra dans l'affaire pour vous établir dans vos droits. Je n'oublie pas mon grand ami, M. Ries, à qui je pense souvent qu'il veille sur vous. Une grande exigence que j'adresse à ma très chère inoubliable Simone, qu'elle suive sa vie socialement et politiquement comme elle a connu son père. Mon désir est qu'elle se marie le plus tôt possible avec un juif et à condition d'avoir beaucoup d'enfants. Si la destinée m'a dépourvu de la succession de mon nom de famille, c'est à elle, à Simone, d'assurer mon dernier nom, comme de tout autre de la famille en Varsovie, qui sont tous disparus. À toi, ma chère femme, je te prie de m'excuser si des fois dans la vie on avait de petits différends. Maintenant, je vois qu'on ne savait pas comment chérir le temps passé. Ici, je pensais toujours que par un miracle, je sors d'ici, je vais refaire une autre vie. Mais hélas, c'est exclu. Personne ne sort d'ici. Tout est fini. Je sais que tu es encore jeune. Tu dois te remarier. Je te donne carte blanche. Je te l'ordonne même, car je ne veux pas vous voir endeuillé. Ne pensez jamais à revenir en Pologne, cette terre maudite pour nous. C'est la terre de France qu'il faut chérir et la nourrir, à moins que les circonstances vous amènent ailleurs, mais jamais en Pologne. Il vous intéresse certainement de savoir ma situation. La voilà, un abrégé, car si je devais écrire tout ce que par quoi je suis passé depuis que je vous ai quitté, je devrais écrire toute ma vie tant j'ai vécu de choses. Notre transport, qui se composait de 1132 personnes, a quitté Drancy le 2 mars, au petit jour, et nous sommes arrivés ici le 4, au crépuscule, dans des wagons à bestiaux, sans eau. En descendant, il y avait déjà plusieurs morts et fous. 100 personnes étaient triées pour descendre dans le camp, parmi lesquelles j'étais. Le reste allait au gaz et dans les fours ensuite. Le lendemain, après avoir passé un bain froid et dépourvu de tout ce que nous avons eu avec nous, sauf la ceinture que je garde encore sur moi, rasé même la tête, ne parlons pas des moustaches et barbiches, on nous a mis, comme par hasard, dans le fameux Sonderkommando. Là, on nous a déclaré que nous venions comme renfort à travailler comme croque-morts. 20 mois sont passés déjà depuis. Il me semble un siècle. Il est pratiquement ici impossible de nous décrire toutes les peines de ce que j'ai vécu là. Si vous vivez, vous lirez pas mal des œuvres écrites à propos de ce Sonderkommando. Mais je vous prie de ne jamais mal me juger si, parmi les nôtres, il y avait de bons et de mauvais. Je n'étais certainement pas parmi les derniers. Pendant cette époque, je faisais tout ce qui était en mon moyen, ne craignant ni risque ni péril pour soulager le sort de malheureux ou politiquement ce que je ne peux vous écrire du sort que ma conscience est pure. Et à la veille de ma mort, je peux en être fier. Au début, j'ai beaucoup souffert, même d'une famille formelle. J'ai songé parfois d'un bout de pain, encore plus d'un peu de café chaud. Plusieurs de mes camarades sont tombés, soit par maladie ou simplement abattus. Chaque semaine, on comptait moins. À l'heure actuelle, nous sommes restés deux seulement de notre centaine. Il est vrai que beaucoup ont trouvé une mort plus ou moins glorieuse, en masse. Et si je n'étais pas parmi eux, ce n'était pas par lâcheté. Non, mais par simple hasard. En tout cas, mon tour vient au courant de cette semaine probablement. Mes souffrances physiques prenaient fin vers septembre 43, depuis que j'apprenais à mon chef la règle du jet de belote. En jouant avec lui, j'étais dispensé de travaux durs et pénibles. À cette époque, je suis devenu formellement squelettique. Mes mains n'ont pas reconnu mon corps en le frottant, mais depuis, je me suis rattrapé. Et à l'heure actuelle, quand rien ne nous manque, et surtout depuis le mois de mai 44, nous avons eu abondance de tout, sauf la liberté chérie. Je suis très bien vêtu, logé et nourri. Je suis en parfaite santé, sans ventre naturellement, bien svelte et sportif, sauf ma tête blanche. On me donne 30 ans. Pendant tous ces 20 mois, ici, j'ai toujours considéré mon plus agréable temps sur mon lit où je me suis couché avec l'idée que je suis parmi vous, que je vous parle. Et souvent, je vous voyais dans mes rêves. Quelquefois, je pleurais, même avec vous surtout, le soir du premier Kippour, ce que nous avons improvisé chez nous. Je pleurais beaucoup en songeant que vous aussi faites de même quelque part dans un coin en cachette en pensant à moi. Je voyais toujours Simone s'éloigner le jour du 17 février en compagnie de M. Van Hem, quand je la suivais par la fenêtre. Et pas une fois, me promenant dans les vastes halls du crématorium vide, je prononçais à haute voix le nom de Simone. Comme je l'appelais et j'écoutais ma voix qui résonnait ce nom chéri, ce que je ne devais malheureusement plus employer, ça, c'est la plus grande punition de notre ennemi pouvait nous imposer. Depuis que je suis là, jamais je n'ai jamais cru en la possibilité de revenir. Je savais, comme nous tous, que toute liaison avec l'autre monde est interrompue. C'est un autre monde là. Si vous voulez, c'est l'enfer. Mais l'enfer de Dante est immensément ridicule envers le vrai d'ici. Et nous, comme témoins oculaires, ne devons pas survivre. Malgré tout, je garde de temps en temps une petite étincelle d'espérance. Peut-être par un miracle quelconque, moi qui avais déjà tant de chance, un des plus âgés de tous ici, passé par tant d'obstacles, resté 200, peut-être arrivera-t-il le miracle final. Mais alors, j'arrive avant qu'on retrouve cette lettre enterrée. Sachez aussi que tous ceux qui étaient transportés de Drancy sont morts, comme Michel, Henri, Adèle avec leurs enfants et tous nos amis et connaissances dont je ne me rappelle plus leurs noms. J'étais heureux là, dans mes souffrances, en vous croyant en vie. Et depuis que j'ai eu votre lettre personnelle avec l'écriture de vous deux que j'embrasse assez souvent, depuis ce temps-là, ma satisfaction est comblée. Je mourrai tranquillement, sachant que vous au moins êtes sauvés. La plupart de mes collègues d'ici ont amené avec eux leur famille entière, et surtout les Polonais sont absolument les seuls survivants pour le moment, et nous sommes là, de différentes nations au pays. Parmi les Polonais, il y a un Figars, qui est un cousin du père de notre Figars. À propos, qu'est-ce qu'il est devenu ? Aussi des personnes qui ont connu Michel et Eva dans le ghetto. Je vous demanderai un service à me faire. Je vivais ici avec un camarade de mon transport, une vie commune avec un juif français, un certain fabricant et commerçant de fourrures de Toulouse, un nommé David Lahana. C'était convenu entre nous de communiquer mutuellement des nouvelles à la famille de l'autre en cas de disparition d'un de nous. Et comme par regret des malchances, lui est parti avant moi, et c'est à moi de faire savoir à sa famille, par votre intermédiaire, que sa femme, Madame Lahana, était morte 3 semaines après notre arrivée ici. Elle était descendue vivante dans le camp avec 30 autres Françaises qui sont toutes déjà mortes. Et lui-même est parti avec un transport composé de 200 personnes, tous du Sonderkommando, le 24 février 1944, à Lublin, où il s'était exterminé quelques jours après. David était un ange, un camarade incomparable. Dit à sa famille qu'il pensait toujours à ses deux fils, avec un amour super paternel, en les croyant naturellement sauvés en Espagne, aussi à sa mère et à ses sœurs et beaux-frères. Il répétait toujours en détresse, « bon Dieu, pourquoi me donner tant de peine, pitié, pitié ? Et c'est moi qui l'ai consolé. » Lui, qui ne savait ni allemand, ni polonais, ni yiddish, se trouvait toujours en mauvaise situation, d'où je l'ai retiré, mais je ne pouvais pas le sauver du transport. Dieu est mon témoin. Écrivez donc une lettre à l'adresse de cette famille, certainement bien connue à Toulouse, pour donner renseignements les concernant, ou bien par une autre voie. Ses beaux-frères Babini, si je ne me trompe pas, tiennent un magasin de soieries et d'articles de Chine, boulevard de Malherbe. Essayez donc de retrouver par là. Je vous prie de ne jamais oublier les biens et le concours de nos amis qui ont fait pour vous en mon absence, comme les Martinelli, Van Hems et d'autres s'il y a lieu. N'oubliez pas que si vous êtes en vie, c'est grâce à Dieu et à eux. Malheureusement, je n'aurai pas la satisfaction de m'acquitter personnellement. Il ne me reste que de leur envoyer mes sincères remerciements et de meilleurs vœux. Des vœux exprimés par un homme avant sa mort seront écoutés par la Providence. Ma lettre arrive vers la fin, comme mes heures mêmes, et je vous adresse le suprême adieu pour toujours. C'est le dernier salut. Je vous embrasse bien fort pour la dernière fois. Et je vous prie encore une fois me croire que je m'en vais allègrement, en sachant que vous êtes en vie et que notre ennemi est perdu. Il est même possible que par l'histoire du Sonderkommando, vous apprendrez le jour exact de ma fin. Je me trouve dans la dernière équipe de 204 personnes. On liquide actuellement le crématorium 2, où je suis avec intensité, et on part de notre propre liquidation pour le courant de cette semaine. Excusez-moi pour mon texte étourdi, comme pour mon français, si vous saviez dans quelles circonstances j'écris. Qu'il m'excuse aussi tous mes amis que je ne meus pas par impossibilité de place et à qui je fais mes derniers adieux en commun en leur disant « Vengez pour vos frères et sœurs innocents tombés sur l'échafaud. Adieu, ma chère femme et ma Simone chérie. Exécutez mes vœux et vivez en paix. Dieu vous garde. Mille baisers, votre mari et père, Hermann. » C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.